Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
Directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, notre partenaire, vous nous proposez chaque dimanche en fin d'émission à 12h25 la chronique La cerise sur le gâteau qui ressemble à une cerise fromagère aujourd'hui.
Exactement, je vais vous parler de camembert et du camembert.
À tout à l'heure, 12h25. Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
La madeleine de, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité. On l'entend aux alentours de 12h15 aujourd'hui.
Aujourd'hui, on écoute l'ancien député écologiste Noël Mamère.
Il ne vous aura pas échappé que dimanche prochain, le 26 mai, nous voterons pour élire de nouveaux députés au Parlement européen. À quelques jours de ce scrutin majeur, nous avons voulu en savoir plus sur ce qui nous rassemble et sur ce qui nous divise fondamentalement, à savoir ce qu'on mange. Et comment on le mange? Alors, petit tour d'Europe de l'alimentation ce midi, avec en filigrane cette question qui nous taraude tous nécessairement. Où mange-t-on le mieux?
Ah, aujourd'hui, on va faire du petit salé aux lentilles.
Hi, foodtubers. Today, I am going to show you a beautiful Irish classic recipe.
Mi chiamo Maria Di Fabio and faccio la pasta alla chitarra oggi.
Ну, нека каква идея е шопска салата, а ще правим традиционната българска салата.
Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Schnellgericht. Heute machen wir einen schönen Klassiker aus Österreich. Wir machen nämlich original Käse.
Ciasto na pierogi, to jest temat do długich dyskusji.
Traditional Greek souvlaki is what is cooking in my kitchen today.
Vamos a preparar la auténtica paella valenciana, la que se cocina.
For me, fish and chips screams cod. Highly sustainable, delicious, but the secret is in the batter.
Yeah! Fish and chips are for me.
Deux invités pour nous accompagner ce midi dans ce petit tour de l'Europe de l'alimentation. Gilles Fumet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe de l'alimentation à la Sorbonne et au CNRS.
Oui, tout à fait.
Toujours. Ouais. Avec Pierre Raffard, vous avez publié l'année dernière un atlas de l'alimentation aux éditions CNRS. Et Stéphane Méjanès est avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline.
Journaliste, globe-trotteur culinaire. La légende dit que vous êtes tombé dans la casserole à la suite d'une rencontre avec des grands chefs dans une forêt lapone.
Absolument, en Finlande, exactement.
Ben voilà, donc c'est vrai, la légende dit vrai. Vous êtes aussi lauréat du prix Amunategui Kurnonski 2018. Et on peut lire de vous, c'est tout nouveau, tout neuf, ça vient de sortir en librairie depuis deux jours. Taillez une plume, croquons le critique gastronomique qui vient de paraître donc aux éditions de L'Épure. Alors on va commencer par la géographie de l'alimentation et donc peut-être par vous d'abord, Gilles Fumet. Qu'est-ce que nous apprend la géographie de l'alimentation et peut-être l'alimentation sur la géographie?
La géographie, elle nous apprend tout simplement que peut-être le meilleur lien que nous avons au monde, le monde c'est l'environnement, la planète, les forêts, les villes, mais aussi les gens, c'est l'alimentation. Et il y a un géographe qui écrivait il y a une centaine d'années, manger, c'est incorporer un territoire. Et au fond, je crois que dans cette formule, on a résumé tout ce que peut signifier pour un chercheur le rapport entre ce qu'on incorpore, par la cuisine ou par les achats en magasin, on va en parler, et par le partage que l'on fait ou pas hein, à table. Voilà. Donc c'est ça que je crois que la géographie nous apprend. Et dans tous ces mouvements qui ont consisté à mettre des toponymes sur des objets, des bouteilles d'eau, des bouteilles de vin, je sais pas si vous faites attention que lorsque vous buvez du Bordeaux, vous faites déjà allusion à une ville. Et jambon de Parme, et le chocolat de Bayonne, etc. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup nommé les produits alimentaires par les et que c'est un mode qui n'est pas seulement une facilité, mais qui est véritablement, sur le plan anthropologique, extrêmement fort.
Il y a une revendication, de toute façon, identitaire de l'alimentation.
Alors, exactement,
sur chaque pays. On l'entendait dans ce petit florilège hein, qui est basé sur les clichés, les stéréotypes, les fish and chips en Angleterre, les frites en Belgique, les pâtes en Italie, le pain en France, etc., etc.
Nous sommes ce que nous mangeons, dit Hippocrate. Hein, et quelque part, notre personnalité, notre identité, elle se construit par ce lien qui rappelle évidemment les régions qui fournissent notre alimentation.
Est-ce que de ce point de vue-là, ça a du sens de parler de cuisine européenne au singulier, Gilles Fumet?
Alors, Oui, oui, je pense que quand on vient des États-Unis ou d'Amérique en général et qu'on arrive à Roissy, même à l'aéroport, voir des gens assis à une terrasse de café en train de manger des macarons, forcément c'est européen. Si vous arrivez du Japon et que vous arrivez au petit déjeuner avec du sucré, du café, des croissants, forcément vous êtes européen. Donc quelque part, vu de l'extérieur, quand bien même serions-nous écrasés par la diversité de l'Europe, parce que nous sommes dedans, donc nous voyons la diversité. Mais quand nous sommes à l'extérieur, nous voyons quelque chose qui est proprement européen et qui fait que on mangera pas autant de riz qu'en Asie et pas autant de sucre et de viande qu'en Amérique.
Stéphane Méjanès, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'effectivement, il y a probablement un trait commun en Europe de la façon de s'alimenter, de la table et de certains rites. Après, entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, il y a quand même des différences qui sont liées aussi, je vais pas me
au climat,
substituer sûrement. Voilà, aux géographes, aux scientifiques, mais il y a évidemment une notion de saison, de climat. Les Nordiques vont récolter peu pendant une courte saison, ils vont préserver, donc il y a tout un art de la préservation des aliments dans toute l'Europe du Nord, notamment Norvège, Danemark, Suède.
Ce que vous connaissez bien.
Que je connais mieux que les autres, en effet. Et puis après, effectivement, en Italie, en Espagne, on va être sur une cuisine plus fraîche, j'allais dire, de produits qui poussent plus facilement, un peu en toute saison, même aux saisons plus fraîches dans certaines contrées. Donc voilà, il y a des, évidemment des disparités, mais comme il y a autant de différences entre la Bretagne, le Pays Basque, l'Alsace et la Provence.
J'ai fumé.
Oui, je crois que ce que vous donnez, c'est des propositions. Après, ce que les gens en font, c'est très différent. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les Danois ont fait ce film qui s'appelle Le Festin de Babette.
Dieu soit loué, ils ont fait attention de garder les victuailles fraîches.
Mais quelles victuailles, Babette ?
Toutes les choses que je vais utiliser pour le dîner français.
C'est absolument le contraire de la nourriture industrielle qu'ils fabriquent eux-mêmes avec ces salamis et ces choses-là. Et donc, ils ont, par le festin de Babette, intégré la cuisine italienne, la cuisine de l'Europe du Sud. Et pendant ce temps, nous, on tournait La Grande Bouffe de Marco Ferreri.
Mange encore, mon petit Michel. Mange. Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir. Il faut manger. Il faut manger.
Ou au contraire, là, on voyait quelqu'un qui était en train de manger comme un animal, si vous voulez, jusqu'à en mourir, et qui symbolisait par là, justement, l'agressivité de la cuisine industrielle. Et on voit, vous voyez, cette interpénétration, en quelque sorte, des questions qui font qu'aujourd'hui, en Europe du Nord, même si l'industrie est très, très présente, l'offre industrielle est très présente, il y a eu une recherche de la bonne cuisine par ces grands restaurants qui sont aujourd'hui, maintenant, remarqués dans le monde entier, les restaurants danois, suédois.
Qui ont d'ailleurs inventé une nouvelle façon, le dogme, la charte de la cuisine nordique au début des années 2000 avec un fer de lance qui s'appelle René Redzepi, qui est le chef de Noma, et qui a inventé
l'un
effectivement...
L'un des meilleurs restaurants du monde, d'année en année.
Qui l'a été plusieurs années consécutivement. Après, il a fermé, puis rouvert. Il est parti aussi cuisiner au Japon, au Mexique, aux États-Unis, en exportant le modèle nordique qui n'est pas forcément une cuisine nordique de territoire, qui est une cuisine, qui est une idée de la cuisine, qui est de cuisiner avec ce qu'on a autour de soi et de pas aller chercher ailleurs. Donc on parle beaucoup de locavorisme aujourd'hui. La charte de la cuisine nordique, dont d'ailleurs Redzepi aujourd'hui s'affranchit un peu parce qu'il s'est senti aussi enfermé, comme dans toute charte ou dans tout dogme, hein, il peut y avoir un enfermement. Donc aujourd'hui il s'en émancipe un petit peu, mais en conservant quand même cette idée que il ne cuisine que ce qu'il trouve autour de lui. En fonction du climat, aujourd'hui, chez lui, il n'y a plus que 3 saisons. Pour lui, il considère qu'au Danemark, il n'y a plus 4 saisons, mais il n'y en a que 3. Donc voilà, tout ça évolue beaucoup. Il y a eu plein d'interpénétrations. Effectivement, la cuisine française a été au centre de l'Europe, et elle l'est encore, on peut le dire. Elle a essaimé beaucoup. Les chefs sont venus se former chez nous, puis sont repartis chez eux. Et aujourd'hui, ils construisent une cuisine plus identitaire, plus singulière, une cuisine de territoire, qui doit plaire aux géographes.
Vous parlez l'un et l'autre d'ailleurs d'interpénétration, on pourrait dire même interdépendance croissante. On l'a vu notamment lors des crises alimentaires et autres scandales, des lasagnes de cheval à la vache folle, et même dans le cas des pesticides dans les fruits et légumes ou des antibiotiques dans la viande de porc. Ça concerne à peu près tous les pays européens. Il y a une question qui est liée à cette interpénétration, c'est peut-être la question de l'uniformisation. Je voudrais vous proposer d'écouter quelques secondes Jacques Attali, qui était l'invité de la Grande Table sur France Culture il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Histoire de l'alimentation ». Écoutez ce qu'il dit sur cette uniformisation.
Il y a des gastronomies de chaque nation. Il n'y a heureusement pas un plat national européen, mais il y a des plats de chaque province, de chaque région. La diversité est essentielle. L'Europe doit évidemment conserver cette diversité et la vivre. S'il y avait un repas plat européen aujourd'hui qu'on devrait nommer, il serait américain. Donc il faudrait mieux éviter qu'il apparaisse.
C'est vrai ça, Gilles Fumé. Vous pensez que c'est inéluctable d'aller vers cette uniformisation ou que ce qui caractérise encore la cuisine en Europe, c'est effectivement cette diversité dont parle Jacques Attali?
Non, je pense pas, parce que nous sommes des individus différents et nous cherchons à nous différencier les uns des autres. Donc oui, il y aura une proposition industrielle qui sera uniformisée, bien sûr, avec la viande hachée, le petit rond de viande hachée dans le pain. Bon, ça, c'est quelque chose qui...
Vous voulez dire le hamburger?
Oui, mais qui porte un nom d'ailleurs.
Aussi,
qui est né en Allemagne. D'ailleurs.
Oui, c'est ça, produit européen à l'origine, la pizza comme l'hamburger.
Qui porte le nom d'une ville allemande, quand même, qu'on sache. Hein. Donc oui, bien sûr, il y a ça. Mais le fantasme, en fait, la crainte de l'uniformisation, je pense que c'est quelque chose qui est véritablement infondé. Parce que, justement, on voudrait comprendre... justement cette cuisine très compliquée, ces manières de manger qui sont extrêmement diverses, et on pense que on va tous aller vers un modèle qui serait commun. Parlez-en aux Japonais, aux Chinois, ils ont absolument pas envie de manger de la cuisine européenne. Et je pense qu'il faut vraiment se défaire de cette idée que, en dehors de ce que l'industrie peut espérer faire, il y ait une véritable volonté de la part des mangeurs de manger tous pareil, quoi.
Stéphane Méchenès.
Oui, tout dépend de ce qu'on appelle uniformisation. Est-ce que c'est manger la même
chose? Est-ce qu'on mange tous la même chose?
On mange tous la même chose au même moment. Effectivement, c'est pas tout à fait le cas. En revanche, il y a une uniformisation dans le restaurant. Moi, je connais mieux le restaurant qu'autre chose. Dans le décor, dans le service. Et dans cette idée dont je parlais tout à l'heure, qui est de cuisiner localement, cuisiner plus sainement. Alors, pour moi, c'est une belle uniformisation. Mais aujourd'hui, on peut aller au restaurant un peu partout en Europe et même un peu partout dans le monde et avoir l'impression d'être un peu dans le même restaurant, avec une même façon de mettre en scène la cuisine, à la fois dans le décor, dans la table et dans le service, et aussi dans l'assiette, avec l'idée de cuisiner les produits près de chez soi, de cuisiner souvent, de moins les transformer aujourd'hui. Donc du coup, on perd un peu de cuisine, parce que cuisiner, malgré tout, c'est transformer les plats. Donc on peut avoir un débat sur le fait de juste servir un poireau brûlé au chalumeau dans une assiette, est-ce que c'est de la cuisine? Voilà, si c'est un très bon poireau cuisiné par un bon artisan qui a travaillé honnêtement et proprement, pour moi c'est de la cuisine. Mais voilà, on retrouve cette uniformisation qui est liée aussi beaucoup aux réseaux sociaux. Tous les chefs aujourd'hui sont sur Instagram, qui est devenu le réseau de la food, comme on dit en bon français, et de la porn food aussi parfois. Et donc ils sont au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde et ils se copient ou ils s'inspirent les uns les autres.
Salade of tomatoes et entrecôte bordelaise.
Avec du Coca-Cola.
Oh non. Oui, Beaujolais nouveau.
C'est l'heure de la Madeleine, Natacha Triou. On parle de cuisine européenne et ça vous a inspiré quelqu'un?
Oui, du coup, je suis allée rencontrer Noël Mamère, l'ancien député écologiste et l'ancien maire de Bègles. Il était aussi journaliste. Hein, et il m'a dit venir d'une famille très portée par la cuisine. Par exemple, quand il est rentré de reportage, la seule question qu'on lui posait, c'était « Alors, as-tu bien mangé ?» Alors, on parlait à l'instant de l'Europe, qu'il n'y a pas une spécialité européenne, mais des plats qui se déclinent et que l'on mange un peu partout. Eh bien, c'est le cas de la Madeleine de Noël Mamère. Elle se déguste au Portugal, en Italie, en France et surtout en Espagne.
Ma Madeleine, elle est liée à ma maman, parce que c'était une formidable cuisinière et que dans ma famille, bien avant ma mère, et il y avait mes oncles et tantes, des deux côtés d'ailleurs, du côté de mon père comme de ma mère, qui ont toujours voué une sorte de culte à la cuisine et à la gastronomie. Voilà, et donc j'ai un souvenir encore très présent d'un plat tout simple, mais vraiment très simple, qui est l'omelette aux pommes de terre que faisait ma mère. Cette omelette, d'abord, il faut couper les pommes de terre de manière fine, qu'elles soient un petit peu molles. Donc, c'est toute une préparation très savante, en fait. Et puis, l'omelette doit être un petit peu baveuse. Ce mariage entre la patate et l'œuf, hein, avec des parties légèrement brûlées, pas brûlées, mais un peu grillées, un peu brune, agrémenté d'un filet de vinaigre, il n'y a rien de meilleur. J'ai regardé ma mère faire la cuisine, mais je ne l'ai jamais aidée. On était 5 frères et sœurs, je n'ai pas le souvenir d'ailleurs que les uns et les autres. Mais si ma sœur aînée peut-être a aidé un peu ma mère, mais... Non, c'était le domaine de maman, et puis voilà. Quand j'allais la voir... Quand j'étais encore maire de Bègles et que j'allais, mes parents étaient très âgés, et que j'allais les voir à Libourne, j'ai appelé maman en disant je vais venir. Et elle avait plaisir, c'est ça, c'était la maison du bon Dieu chez moi. Et l'auberge espagnole en tout cas, on pouvait amener des copains n'importe quand, il y avait toujours à manger chez nous. Et ma mère avait plaisir à me préparer un bon plat, un bon dessert, quand je venais les voir toutes les semaines à Libourne. Je ne mange pas d'omelette de pommes de terre ailleurs. Ma mère est décédée il y a longtemps. Mais il est rare que je choisisse ou que je commande des omelettes de pommes de terre, sauf quand je vais en Espagne. Quand je suis bordelais, j'ai été habitué avec mes copains à aller très souvent au Pays Basque. Et là, la tortilla, les patatas, c'est quand même très très bon. Hein.
Alors vous, Stéphane Méjanès, qui voyagez beaucoup pour votre travail de journaliste culinaire, et notamment en Europe, même si ça n'est pas le seul continent que vous visitez, est-ce qu'à l'image de l'omelette aux pommes de terre ou de la tortilla, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, espérer créer l'Europe par la nourriture, par la cuisine ?
Je pense que aujourd'hui, le ciment de l'Europe gastronomique, il est encore en France. On peut le constater avec le plus grand concours culinaire qui s'appelle le Bocuse d'Or, qui est organisé à Lyon tous les 2 ans dans le cadre du CIRA, qui porte le nom du pape de la gastronomie française, qui est un concours international, donc il y a aussi des équipes du monde entier, mais il y a beaucoup, et ce sont les Européens qui trustent à chaque fois le podium, sauf les États-Unis ont gagné il y a 3 ans, mais et c'est notamment l'Europe du Nord, le Danemark, la Suède, la Norvège, qui sont toujours sur le podium. Donc, et le concours du Bocuse d'Or est un concours qui magnifie la cuisine française. Donc, il y a une façon de faire la cuisine en France qui est très codifiée. C'est le pays où elle est probablement la plus codifiée, la plus ancienne, avec beaucoup de traces écrites d'héritage comme ça, de tradition, et dont s'inspirent encore aujourd'hui tous les cuisiniers européens. Donc, je dirais que ce qui nous rassemble, c'est une façon de faire la cuisine à la française, avec des particularités qui sont liées, comme je disais tout à l'heure, au territoire, au climat, aux produits qu'on peut trouver chez soi. Mais au-delà d'un plat qui pourrait être un plat européen, et il y en a effectivement, pour moi, il n'y en a pas. Même en France, quand on demande aux Français quel est leur plat préféré, c'est le couscous ou le magret de canard. Donc, ça dépasse.
Le poulet rôti aussi, parfois.
Ça dépasse les frontières. Donc, il n'y a pas de plat européen, mais il y a une façon d'envisager la cuisine qui est très française, je pense, aujourd'hui. Parfois, on dit que la gastronomie française est en péril. Je pense que ce n'est pas du tout le cas et qu'elle est aujourd'hui au cœur de cette Europe de l'alimentation.
Gilles Fumet, dans votre atlas de l'alimentation, vous dites que en Europe, ce qui nous rassemble, c'est que nous partageons des cultures ou une culture qui est bâtie autour du repas à table avec entrée, plat, dessert, et c'est ce que vous appelez le modèle gastronomique. Oui. Donc voilà ce qui nous rassemble déjà.
Oui, tout à fait.
Le temps du repas, peut-être, il se perd, mais en tous les cas, c'est notre culture.
Oui, je pense que la table est un lieu autour duquel, bien sûr, on mange, mais surtout on discute. Hein. Vous avez, on a entendu Jacques Attali dans son livre, il parle beaucoup de cette question de la conversation, sans d'ailleurs même l'approfondir, mais au fond, je crois que c'est très important. Et c'est vrai que en Afrique, en Inde, aux États-Unis, dans beaucoup de régions du monde, en fait, on mange pas à table. En fait, c'est quelque chose qui est assez lié à la religion catholique. Parce que, en fait, les catholiques ont inventé ce moment au cours duquel ils se rassemblent autour d'une table, dont j'explique à mes étudiants la racine en les emmenant, je les emmenais jusqu'à l'année dernière, à Notre-Dame de Paris, pour leur faire comprendre que ce qu'ils voyaient comme, parce qu'ils voyaient, ils voient pas la table, ils voient pas l'hôtel. Personne ne dit, mais monsieur, cet hôtel, c'est la table. Ils voient ça comme une caisse, ils voient ça comme un meuble. Mais que la table, en fait, c'est la tombe. La table, c'est ce rectangle qui correspond exactement à une tombe dans laquelle on a mis un corps.
Ça peut être rond, regardez, là, on est assis autour d'une table ronde. Hein.
Alors, la table ronde, justement, parce que...
Parlons-en.
Alors, la table ronde, c'est quelque chose qui vient de Chine et qui correspond exactement à ce que vous avez dans tous les restaurants chinois, ce que vous baladez. Vous avez un ciel qui est découpé dans le restaurant chinois avec des décorations. Et en fait, la table ronde que vous avez dans un restaurant chinois, c'est un morceau du ciel qu'on a découpé et mis devant vous pour cosmiser la nourriture.
Saviez ça, Stéphane Majanès?
Non, j'apprends toujours plein
de
choses avec
vous. Non, mais c'est pour vous dire que, en fait, cette question de la table, c'est une question extrêmement forte sur le plan symbolique, parce que, en fait, à table, on ne fait pas que manger. Voilà, on se ressource, mais spirituellement, socialement. Et je fais souvent remarquer à mes étudiants que le verre à pied dans lequel on déguste des vins, en fait, c'est le même objet que le calice du prêtre.
Stéphane Majanès.
Oui, à table, on discute et on fait, pour revenir à notre sujet peut-être, et à l'actualité, on fait de la politique aussi autour de la table. Bien sûr, on sait combien les députés, les sénateurs sont des mangeurs infatigables parfois, mais aussi on peut rappeler Talleyrand qui avait emmené Antonin Carême avec lui au congrès de Vienne en 1814, ce congrès qui a justement redéfini l'Europe telle qu'elle serait dans les décennies plus tard, donc... Et missionné par Louis XVIII, Talleyrand lui avait répondu « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites ». Donc voilà, la façon de négocier, de discuter avec ses pairs, avec tous les ministres des Affaires étrangères de l'époque, tout ça se passait autour d'une table.
Et c'est aussi d'ailleurs c'est toujours le cas. Ce qui nous rapproche aussi peut-être en Europe, c'est que nous avons une politique alimentaire européenne avec un certain nombre de contraintes. Tout à l'heure, Pierre Hiverna nous parlera du camembert. Donc évidemment, le camembert en fait partie de ces contraintes et de cette politique européenne. On est donc à une semaine là, des élections. Gilles Fumet, vous qui dites que l'alimentation, c'est de la géopolitique, on est en plein dedans avec cette question de la politique alimentaire, voire agricole commune, disons.
Mais oui, parce que en Europe, s'est livrée quand même une bataille depuis la fin des années 70, qui a été extrêmement violente avec l'industrie agroalimentaire américaine, hein, qui a voulu imposer ce modèle que nous avons connu, mais qui est en parfaite régression. Alors, c'est vrai que McDo communique toujours sur les restaurants qu'il ouvre, mais jamais sur ceux qu'il ferme. Et en fait, on s'aperçoit que dans beaucoup de régions, dans beaucoup même de centres-villes en Europe, il n'y a plus de McDo. Je rentre par exemple de Dresde. Dresde est quand même une très grande ville avec une énorme place. Etc. Il n'y a pas dans les 500 mètres autour de la grande cathédrale, il n'y a pas un fast-food américain.
Ce qui correspond peut-être à la conclusion de la revue, de l'étude de la revue britannique The Lancet en avril, qui prouve que la malbouffe est devenue la première cause de mortalité dans le monde, mais que France, Italie et Espagne y échappent. Ce sont les trois pays les moins touchés avec Israël et le Japon. Donc France, Italie, Espagne, trois pays européens cuisine majeurs, nous disait Stéphane Méjanès. On est encore dans une cuisine inspirée de la France.
Cuisine. Donc, c'est des pays qui cuisinent. Je pense qu'on doit vraiment se souvenir que lorsque on a des systèmes sociaux qui favorisent la transmission des culinaires par les parents, hein, on a beaucoup entendu les parents, les grands-parents, le rôle de l'omelette tout à l'heure, là, c'est une histoire de transmission. Hein. Eh bien, effectivement, on réduit la dépendance vis-à-vis des produits industriels. Voilà, et donc on n'est plus victime de ce qui peut arriver par eux.
Et puisqu'on parlait de géopolitique, restez avec nous tous les deux, Gilles Fumet et Stéphane Méjanès, pour écouter la chronique La cerise sur le gâteau. Pierre Hivernat, c'est le fromage qui s'invite dans le débat européen, alors ?
Eh bien oui, Caroline, mais je voudrais d'abord vous parler d'un événement culturel et patrimonial important qui s'est déroulé voici 3 semaines sur la célèbre commune normande de Camembert, qui flirte quand même gentiment avec la barre des 200 habitants, et où a été enfin installée une statue de Marie Harel. Et ce n'est que justice quand même. Sur la commune voisine de Vimoutiers, qui tutoie certes les 3500 habitants, ils en avaient déjà 3. Mais que la créatrice du camembert ne soit pas présente à Camembert, aucun touriste ne pouvait s'y retrouver. Parce que c'est là qu'en 1791, que cette habitante de Camembert adapta une recette de brie apprise auprès d'un prêtre. Et même si toute cette histoire montre à quel point les fake news n'ont pas attendu les réseaux sociaux, retenons quand même que Marie a été, de fait, la première d'une longue lignée de fromagers, mais qu'aucun n'a imaginé qu'un jour leur fromage puisse s'inviter dans les débats européens. Car la vraie histoire du camembert commence surtout en 1993, quand celui-ci reçut de Bruxelles son appellation d'origine protégée AOP. Résultat, vous trouvez aujourd'hui dans votre supermarché des camemberts de Normandie, qui ont l'AOP, et des camemberts fabriqués en Normandie, et la nuance est de taille. Pour les premiers, on compte moins de 10 producteurs, fabriquant 5500 tonnes de fromage par an avec du lait cru local, quand 60 000 tonnes de produits génériques inondent le marché pour la moitié du prix. Mais voilà que les industriels veulent changer les règles européennes de cette AOP, en passant de l'obligation de 70% de lait local à 30% et en autorisant le lait pasteurisé. Bref, comme le soulignait récemment le député Richard Ramos en distribuant un camembert à chacun de ses 576 collègues de l'Assemblée, je cite... En permettant à un machin plâtreux sans goût d'arborer le label au même titre que les véritables camemberts, notre fleuron ne sera pas plus intéressant qu'un camembert générique stérilisé fabriqué au Canada, au Japon ou aux États-Unis.
Sauf que la pasteurisation, c'est aussi une garantie de sécurité. Pierre, on l'a vu récemment, notamment avec la propagation de la bactérie E. coli et l'interdiction par le gouvernement de la consommation de lait cru pour les enfants de moins de 5 ans.
C'est vrai, Caroline, et c'est un point non négligeable qui doit pousser les producteurs à ne pas trop jouer sur les quantités pour se concentrer sur le contrôle de la qualité. Enfin, soulignons quand même que l'un des grands activistes normands qui veut changer la règle européenne n'est autre que le géant industriel Lactalis, le même qui est impliqué dans l'une des plus grosses crises sanitaires de ces dernières années, avec un lait parfaitement pasteurisé. Ce qui se joue là est surtout symptomatique d'une aseptisation et d'une standardisation qui va à l'encontre du simple fait qu'un lait cru est un produit vivant et que ce sont ces bactéries qui font que la gastronomie fromagère est ce qu'elle est. Et les dérives en cours touchent désormais d'autres AOP, comme le Roquefort Société qui commercialise du bleu de brebis industriel en utilisant un packaging trompeur, ou le Beaumont qui ressemble furieusement à du Beaufort. Or, tous ces produits vivants, issus d'un terroir, sont surtout des formateurs de notre goût, les préservateurs de nos diversités, quand ils ne sont pas des passeurs de légendes qui doivent nous amener à ne jamais oublier de rendre un hommage à Marie Harel lors de notre passage à Camembert.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup pour cette chronique, Pierre Hivernat. Merci à vous, Gilles Fumet. Et merci à vous également, Stéphane Méjanès. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages. Atlas de l'alimentation, Gilles Fumet avec Pierre Raffard aux éditions CNRS et aux éditions de l'Épure. Tailler une plume, croquons le critique gastronomique. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission. Et les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weitzman. Bon dimanche à tous.